cette séance plénière. On a deux intervenants ce matin. On a d'une part Philippe Zelati, qui est épidémiologiste. Donc, au passage, je souligne l'ouverture d'esprit d'Amadès qui donne la parole lors d'une plénière à un épidémiologiste. Et Judith Herman, anthropologue, qui vont tous les deux vous parler une petite demi-heure, toute petite, plutôt 25 minutes, pour qu'il nous reste un peu de temps pour la discussion. Donc je donne déjà la parole à Philippe, qui va, dans le titre de l'intervention, est « Note de Guinée, réflexion face à l'épidémie d'Ebola 2014-2015 ».
Merci. Bonjour. Donc, comme président, je suis médecin épidémiologiste. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je travaillais essentiellement sur le VIH depuis 1988 ou quelque chose comme ça. Et depuis peu, je suis investi sur Ebola, dont je reviens. Je viens passer 2 mois en Guinée. Et donc, je vais donner quelques. Alors, ce n'est pas des réflexions, c'est peut-être simplement des notes comme ça, sur ce que peut être cette épidémie ou sur ce que moi je perçois. Alors déjà, comme introduction, je peux dire que quand j'ai vu le thème d'Amadès de cette année, il y a déjà une bonne année, même un peu plus, je me suis dit, bon là, décidément, je n'ai rien à dire de particulier, guérir, bon, d'accord, c'est plutôt une question de sciences sociales, moi je suis médecin, je n'ai pas grand-chose à en dire finalement. Ça, c'était il y a quelques temps. Et puis, comme je travaille dans le sida, la guérison, ça, on sait qu'on guérit pas. En Afrique, à chaque fois qu'on fait des exposés grand public sur le VIH, la première chose qu'on nous reproche, c'est « Ouais, mais de toute façon, vous ne savez pas guérir le sida, c'est une maladie chronique. Alors, il y a des traitements, les gens vont un peu mieux, mais il faut prendre des traitements tout le temps. La guérison, c'est pas là, ça existe. » Bon, d'accord. Donc, effectivement, pour moi, j'avais pas de choses à dire en particulier sur le thème de cette année. Et puis, il y a eu une épidémie qui s'est annoncée. Alors au départ, comme beaucoup de gens qui travaillent en Afrique et en Afrique de l'Ouest, j'étais particulièrement sensible au fait que cette épidémie survenait en Afrique de l'Ouest, que c'était la première qui survenait en Afrique de l'Ouest. Il y a eu un cas il y a 20 ans en Côte d'Ivoire, mais il n'y avait pas eu d'épidémie massive. Que cette épidémie a quand même certaines caractéristiques, elle a touché 3 pays de façon importante sur un an et demi, elle n'est pas encore terminée tout à fait, en tout cas en Guinée et en Sierra Leone. Elle a quand même touché 26 000 personnes, ça c'est les chiffres du début du mois de mai. C'est probablement un peu sous-estimé. Il y a quand même eu 11 000 morts. Donc vraiment... c'est une épidémie nouvelle. C'est la première fois qu'une épidémie d'Ebola, depuis 1976 et la découverte du virus, comme vous le savez, qui a pris des proportions nettement plus importantes que les précédentes, simplement peut-être parce que le réseau des communications est nettement meilleur, et pourtant il n'est pas au moins, est nettement meilleur en Guinée qu'en RDC, par exemple, et que tout un ensemble de pratiques participent à l'extension de l'épidémie. Ou en tout cas, on participait à l'extension de l'épidémie. Alors ces chiffres, moi je suis épidémio, donc voilà. Là, déjà, on peut dire qu'il y a eu 11 000 décès, ce qui est à la fois beaucoup, et quelque part pas tant que ça. 11 000 décès, c'est moins que la surmortalité de la grippe en France cette année. Je veux dire, il y a eu 18 000 décès de surmortalité de la grippe en France, entre l'hiver et le printemps. Là, il y en a 11 000 sur 3 pays, c'est quand même pas non plus... en Afrique, malheureusement, on est habitué à des choses encore plus mortelles que ça. En même temps, c'est quand même aussi une épidémie qui a désorganisé totalement la région. À la fois liée aux craintes d'extension, à la fois liée aux mesures qu'on essaye de mettre en place pour limiter l'extension. Donc, par exemple, les écoles ont été fermées plus de 6 mois dans les 3 pays, les marchés, et on sait combien les marchés sont importants en termes économiques et relationnels dans la région, les marchés ont été fermés pendant plusieurs mois en Guinée forestière. La plantation du riz, qui est une activité d'habitude collective avec les villageois de plusieurs villages qui s'associent, n'a pas pu avoir lieu dans un certain nombre de régions de la Guinée forestière. il y a toute une série de choses qui n'ont pas pu survenir du fait de l'épidémie, à tort ou à raison, hein, qui ont désorganisé complètement l'économie locale. Les extractions minières ont été arrêtées, puisque Rio Tinto et les grands trusts miniers ont rapatrié leurs experts étrangers, ont fermé et ont mis au chômage des centaines ou des milliers de personnes. Donc réellement, c'est une épidémie qui à la fois est pas gigantesque en termes de chiffres, mais est grave en termes de retentissement. Par ailleurs, comme vous pouvez le noter, s'il y a eu 26 000 cas et 11 000 décès, ça veut dire qu'il y a 15 000 personnes qui s'en sont sorties. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément en tête initialement, c'est qu'on a plus de guéris, heureusement, que de morts. Et ces guéris, jusqu'à il y a très peu de temps, on en parlait assez peu, Jérôme. Il y a peu de gens qui se sont intéressés aux guéris au début de l'épidémie, en tout cas. Et finalement, toutes les mesures contre l'épidémie sont des mesures de contrôle de l'épidémie, de contrôle et dépistage des patients suspects, alors suspects d'Ebola, de mise en quarantaine, plus ou moins, de ces patients, de diagnostic, de certitude ou pas, s'ils ont Ebola, et s'ils sont Ebola, d'isolement. Et puis après, il y a cette histoire qu'il y a des gens qui... Bon, il y a déjà ceux qui sont suspects et qui ne sont pas malades, donc bon. Ok, ceux-là sortent des centres d'isolement assez rapidement, au bout de 3 jours, hein, 2-3 jours. Et puis il y a ceux qui sont déclarés guéris, alors c'est ça qui va être l'objet de ma présentation, ceux qui sont déclarés guéris par le système sanitaire qui contrôle Ebola, ou qui essaye de contrôler Ebola, et qui sortent des centres de traitement. Alors, il faut bien être conscient que dans Ebola, toutes les organisations, ONG, Nations Unies, tout ça, tout le monde a eu un train de retard. Hein. L'épidémie a commencé probablement en décembre 2013. Jusqu'en mars 2014, personne, ou très peu de gens, y ont vraiment pensé et ont été capables de diagnostiquer cette épidémie. Il y a eu donc beaucoup de morts, en particulier chez les soignants, au début, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Parce qu'on a beau dire que c'est une fièvre hémorragique, finalement, il n'y a que moins de 10% des malades qui saignent quand ils sont malades. Donc, ils ont d'abord pensé à une fièvre, mais une fièvre, ce n'est pas forcément Ebola. Donc, de décembre 2013 à mars 2014, par définition, il ne s'est rien passé. Ensuite, de mars 2014, enfin, il ne s'est rien passé, à part les tensions d'épidémie et les morts. De mars 2014 à juillet, août 2014, il y avait 2 centres de traitement. De MSF, donc de Médecins Sans Frontières, qui ont été mis en place, un dans la capitale et un en Guinée forestière, là où l'épidémie a démarré et s'est étendue aux 2 pays voisins. Et ce n'est qu'à partir de août 2014 que l'OMS a bien voulu considérer que finalement il s'agissait quand même peut-être d'une vraie épidémie et qu'elle n'allait pas s'éteindre d'elle-même comme toutes les autres épidémies d'Ebola qu'il y a eu avant. Il y en a eu presque une vingtaine, hein. Mais cette vingtaine d'épidémies, c'est éteinte d'elle-même dans les forêts de la RDC, si je veux utiliser un cliché. Et donc, en fait, août 2014, l'OMS a commencé à bouger, enfin. Les autres partenaires, les autres bailleurs de fonds ont aussi commencé à bouger à partir de là. Et moi, mon premier voyage, c'est en novembre. Et en novembre, on ouvrait d'autres centres de traitement. Et donc, on était au sommet du nombre de cas. Mais les 3e et 4e centres ont ouvert en novembre. Donc c'était vraiment quand même, ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps pour se mettre en place. Et puis moi je suis retourné en février, et en février 2015, là il y avait 6 laboratoires de biologie moléculaire, le plus souvent mobiles, installés sur le territoire, 5 ou 6 centres de traitement, et l'épidémie, elle donnait l'impression qu'elle allait être finie. Donc on avait un petit décalage entre toutes ces organisations qui sont arrivées avec les centres de traitement et puis une épidémie qui finalement était finissante. En tout cas, en Guinée forestière, elle s'est achevée début mars. Enfin, elle s'est achevée. Non. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux malades depuis début mars. En Guinée maritime, de l'autre côté, vers Conakry et la capitale et la région autour, l'épidémie s'est poursuivie, mais en basse intensité, alors qu'il y avait cette fois-ci un dispositif assez considérable entre les centres de traitement et les laboratoires. Donc déjà, on a un décalage entre l'épidémie et la réponse. Ça, c'est un premier point. Par ailleurs, donc, comme j'ai dit, il y a 15 000 guéris. Alors, quand nous sommes arrivés, la riposte française, c'est le professeur Delfrécy, qui est issu du SIDA au départ, qui est toujours le directeur de l'ANRS, parce qu'il a quand même tendance à cumuler quelques directions. Et M. Delfrécy est aussi le responsable de la lutte contre Ebola. Donc, en fait, il a fait appel à des équipes qui travaillent sur le SIDA pour venir faire de la recherche sur Ebola en Guinée. Il y a eu une équipe de Bordeaux, de l'INSERM, qui a été invitée à faire un essai thérapeutique avec un médicament qui est utilisé contre la grippe, qui est bien connu, et qui est utilisé contre la grippe, qui est un produit japonais, mais qui a été essayé en Guinée forestière de décembre à mars, à peu près. Et puis, il y a notre équipe, qui est une équipe qui est basée à Montpellier, de l'IRD, et qui a bien l'habitude de suivre des cohortes de personnes vivant avec le VIH, adultes et enfants, que ce soit au Sénégal, au Cameroun ou pour les enfants à Abidjan, dans mon cas. Donc notre équipe a été sollicitée et quand on s'est interrogé avec Delfrécy et la cellule Ebola sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, on s'est rendu compte que personne ne s'occupait des guéris. Alors, je vais revenir sur ce terme guéri, hein, mais personne ne s'occupait de ces malades qui étaient déclarés guéris et qui sortaient des centres de traitement. Donc on a fait une première mission exploratoire en novembre, et on s'est rendu compte en novembre que finalement, sur le terrain, là non plus, personne n'avait évoqué les guéris. Que, ben, ils étaient guéris, non? Ils avaient eu de la chance, ils étaient sortis vivants de cette histoire. Qu'est-ce qu'on avait à faire en plus? S'ils étaient vraiment malades après, ben, ils iraient voir le docteur comme d'habitude, et puis ils se débrouilleraient comme on fait d'habitude. Donc, en fait, quand on a apporté notre projet en Guinée, là, je dois avouer qu'on a eu un certain succès et que nos partenaires guinéens étaient très, très intéressés en disant « Ah oui, ça manque, on n'avait pas ça dans le plan stratégique, etc. » Donc, on a développé un projet pour s'occuper des guéris. Et donc, c'est là que la définition de guéri... Alors, s'occuper des guéris, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier des gens qui ont été déclarés guéris par le système de prise en charge Ebola, de l'Ebola maladie au moment de la maladie, qui sont sortis guéris donc des centres et que nous on souhaite recevoir après pour identifier s'il y a des séquelles. C'est tout bête, je dirais, pour identifier s'ils ont des problèmes médicaux, psychologiques, alors sociaux évidemment, et pour catégoriser, pour lister ces problèmes, les décrire, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau biologique, etc. etc. L'idée paraît assez simple, et offrir, comme on l'a fait dans le VIH, parce que ça marche très très bien en termes de suivi de malades, et offrir une prise en charge. Rappelez-vous, la Guinée, c'est comme d'habitude en Afrique de l'Ouest, il n'y a aucune prise en charge médicale, il n'y a pas de système de sécurité sociale évidemment, et tout le monde paye tout pour tout, hein. Ce qu'on oublie toujours en France, parce qu'on a quand même le privilège de la sécurité sociale au quotidien, mais en Guinée, vous avez des maux de tête, vous payez votre aspirine, et vous avez une amputation de la jambe, vous payez votre amputation de la jambe. Et pour les séquelles d'Ebola, les gens étaient remis dans le système avec leurs propres moyens, c'est-à-dire leur propre absence de moyens, et ils se débrouillent. Donc l'idée, c'est bien de monter une cohorte dans des sites à Conakry et en Guinée forestière, de prise en charge, en offrant la prise en charge aux patients. Donc ça, c'est le projet. Donc, bon. Et donc, ça revient à cette idée de guérir. Donc, voilà. Dans une épidémie contagieuse telle qu'Ebola, dans une épidémie, c'est un pléonasme, dans une épidémie comme Ebola, ce qui compte pour les gens qui luttent contre cette épidémie, c'est pas tellement les mesures individuelles, en tout cas au début. C'est l'idée qu'il faille contrôler l'épidémie. Contrôler l'épidémie, c'est-à-dire contrôler la circulation du virus qui contamine les gens. Et donc, les épidémiologistes et les virologistes ont donné une définition de la guérison qui est assez particulière. C'est, vous rentrez dans le centre, vous êtes déclaré cas d'Ebola lorsque vous avez du virus dans le sang une fois. On vous suit un certain nombre de jours dans ce centre. Et puis, lorsque vous avez deux fois de suite un examen virologique de PCR, je passe les détails, mais un examen virologique qui montre l'absence de virus dans le sang, vous êtes déclaré guéri. C'est ça la guérison pour les cas d'Ebola, et vous avez un joli papier, un certificat, j'ai plein de photos de certificats, je ne vous les montrerai pas aujourd'hui, mais j'ai plein de photos de certificats, certificat de guérison, monsieur machin a été déclaré guéri d'Ebola, tel jour, à tel endroit. Voilà. Bon. Mais on peut se poser la question de dans quel état sont ces guéris. Et en particulier, il y a des gens tout à fait malades. Il y a même des gens qui sont tellement malades qu'ils s'en remettent pas. Hein. Donc en fait, pour le système Ebola, pour le système de lutte contre Ebola, vous êtes déclaré guéri. Après, vous vous débrouillez. Bon, moi j'ai vu des gens sortir avec des séquelles importantes. Alors ces séquelles existent et sont souvent transitoires. C'est-à-dire que quand même, en général, si on arrive à tenir assez longtemps, elles disparaissent. Hein, et elles se résorbent. Mais enfin, il y a des gens qui sortent avec des insuffisances rénales sévères, il y a des gens qui sortent avec des démences frontales un peu bizarres sévères, il y a des gens qui sortent avec des comas, et ils sont pas du tout guéris d'un point de vue de docteur de base. Je veux dire, ça fait longtemps que je suis plus médecin pratiquant, mais même moi, j'ai tendance à considérer qu'ils sont pas vraiment guéris au sens où on l'entend. Donc ça, c'est une chose, et c'est assez étonnant. Enfin, je veux dire, rien n'a été pensé jusqu'à très peu. Alors maintenant, c'est différent, parce que comme l'épidémie diminue, évidemment, il faut bien que tout le monde se recycle. Et donc, il y a plein de gens qui se mettent à proposer, là, à côté d'un truc qui est une sorte d'antienne, là, maintenant, depuis 3 mois, sur la reconstruction du système de santé, n'est-ce pas? Il faut bien utiliser les fonds qu'on a eu pour Ebola. Donc, toutes les ONG et les Nations Unies se relancent sur reconstruction du système de santé, qui en a bien besoin, hein. Si jamais on fait vraiment de la reconstruction du système de santé guinéen, libérien et Sierra Leone, c'est pas une mauvaise idée, mais on est dans le post-Ebola, quoi. Et puis, surtout qu'il y en a qui aimeraient bien que ça se finisse quand même, cette histoire. Et puis, il y a cette reconstruction du système de santé, et puis il y a plein de gens qui maintenant seraient prêts à prendre en charge les patients, les ONG, les gens comme l'OMS même, parce qu'on se rend compte qu'on a quand même laissé en plan 20 000 personnes, quoi. Alors, phénomène. Alors, bon, moi, je vois toujours les choses avec ma lunette sida. Donc, phénomène un petit peu particulier. Il y a les associations de guérison. Alors, déjà, le Ebola, j'y reviendrai, touche beaucoup de soignants. Donc, les associations de guérison, dans les associations de guérison, il y a aussi beaucoup de soignants. D'accord ? Et donc, là, on retrouve des médecins, avec les réflexes corporatistes de médecins habituels. Et il y a une association de guéris à Conakry, qui est la plus grosse association du pays, dont tout le bureau est constitué que de soignants. C'est plus simple, hein, quand même, pour gérer les choses. Et qui a une vision un petit peu, je dirais, autoritaire des associations. C'est-à-dire, c'est elle l'association, et il n'y en aura pas d'autres. Ce qui n'est pas vrai, parce que moi, j'en connais au moins 5. Mais il y a que celle-là est très présente dans la capitale, est très forte. Enfin, très forte. Essaye d'être très forte et donc essaye d'avoir une position assez corporatiste, mais aussi, et ça c'est plus intéressant, très inquiète, et peut-être que c'est lié à la culture médicale de ses dirigeants, très inquiète sur tout ce qui se passe en recherche. Parce qu'évidemment, d'accord, il y a les malades, mais les guéris sont une source, sont une mine de renseignements possibles pour la recherche qui est absolument fabuleuse. Je veux dire, comment ont-ils survécu? Pourquoi ont-ils survécu? Est-ce que c'est pour des raisons génétiques? Est-ce que c'est pour des raisons immunologiques? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on ne sait pas du tout? Il y a deux essais vaccinaux qui se battent l'un contre l'autre en ce moment en Guinée, un européen et un américain, avec des pratiques tout à fait intéressantes sur « il faut que je trouve des malades ». Il faut que je trouve des gens pour vacciner, parce que s'il n'y a pas de malade, je ne pourrai jamais tester mon vaccin. Donc il y a toute une lutte autour de la recherche sur l'épidémie et sur les guéris, parce que c'est la première fois qu'on a une épidémie qui dure un peu et qui a autant de malades. Et cette lutte, comment dirais-je, les associations sont très inquiètes parce qu'elles se demandent à quoi sert, alors là, c'est un thème que vous connaissez bien mieux que moi, à quoi sert tout ce sang que l'on prélève? À quoi servent ces 50 millilitres que l'on prend par personne et par séance? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui est exporté? Et c'est exporté où? Donc ces associations de guéris sont à la fois ont un comportement un petit peu gênant parfois, mais aussi ont un comportement vigilant et très interrogateur sur « et qu'est-ce que vous faites de nos produits, de notre sang ?» D'autre part, c'est un peu ce qu'on demandait déjà dans le SIDA aux associations, mais dans l'Ebola c'est encore pire, on a l'impression, alors que rien n'est fait pour les guéris, que lorsque vous allez... Enfin, c'est pas on a l'impression. J'étais à un atelier à Dakar, où on demandait d'un seul coup aux guéris d'être un peu des gens responsables. Vous êtes guéris, comme s'ils y étaient pour quelque chose, les autres. Et donc vous devez à la fois témoigner, être présent pour le counseling et la prise en charge des patients Ebola nouveaux, et participer en donnant votre sang, en donnant vos liquides, vos excrétions et tout, à la science. C'était carrément ça, quoi. Hein. C'est votre devoir en tant que guéri. D'accord ? Donc c'est assez particulier. Alors, comme d'habitude, il y a des guéris qui sont tout à fait oubliés, les enfants. Ça, c'est une constante dans d'autres épidémies aussi. Hein. Pourtant, 20% des... Alors, les enfants ont payé un tribut assez lourd parce que, visiblement, la mortalité des enfants de moins de 5 ans est colossale dans cette épidémie. Hein. Un enfant qui a Ebola, des moins d'un an, moi, je connais un survivant, un guéri, qui a guéri à 4 mois, mais je ne connais que celui-là. Alors, je ne les ai pas tous, hein, mais il y en a très très peu. Des moins de 5 ans, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Donc, les enfants, ils ont été oubliés, bon, on a l'habitude, voilà. Et puis, les enfants, alors, ils sont guéris, mais il n'y a vraiment qu'un virologiste pour dire qu'ils le sont, quoi. Moi, j'ai vu deux enfants sortir des centres. Hein. Un était dans un état de stupeur. J'ai jamais vu un enfant aussi calme que ça, même au niveau du sida. Les sida, ils gémissent, ils sont là, tu les entends, tu les vois. Ebola, il est en stupeur derrière, dans la voiture. Je m'en suis rendu compte au bout d'un certain temps seulement qu'il y avait un enfant. Et vraiment, rien, quoi. Mais il était guéri du matin et on l'amenait dans une garderie pour enfants ayant eu Ebola. Je vais y revenir, il y a des petits soucis aussi sur cette prise en charge. Et le deuxième était tellement guéri qu'il a fait 2 semaines à l'hôpital dans notre projet, dans le coma, il n'est jamais sorti du coma, et il est décédé. Mais guéri. Pour revenir aux enfants, juste un détail, comme le fait d'avoir Ebola est quand même très stigmatisant, les organisations qui prennent en charge les enfants sortant des centres, parce qu'il y a différentes situations. Il y a les enfants qui ont perdu leurs parents du fait de la maladie et qui se retrouvent tout seuls dans le centre, déclarés guéris, ils sortent, il n'y a rien. Il y a les enfants qui sont malades, qui guérissent, mais dont la famille est à des kilomètres et des kilomètres, enfin les survivants, quoi. Donc, il y a des garderies qui ont été mises en place par Save the Children, etc., mais qui sont quasiment clandestines. Parce qu'il ne s'agit pas que la population autour sache que ces enfants ont eu Ebola. D'accord. Donc la prise en charge des enfants est réellement un souci. Alors les soignants, les photos, là, si je peux me permettre, en fait c'est des photos que j'ai prises au cours de mes différentes missions. Les soignants sont en première ligne, ça c'est clair. Alors ce n'est pas les soignants des centres de traitement qui sont touchés ou qui meurent. Ceux-là prennent évidemment des précautions, sont informés qu'il y a un souci, reçoivent des malades suspects, donc sont déjà vigilants. Ceux qui meurent, ceux qui sont morts dans cette épidémie, ou ceux qui ont été profondément touchés par cette épidémie, c'est les soignants en première ligne, mais de première ligne aussi. Hein. C'est les soignants des centres de santé périphériques qui reçoivent un malade avec une fièvre, et puis voilà, quoi. C'est les soignants de l'hôpital aux urgences. Hein. Et donc là, il y a toute une transformation du système de santé actuellement, sur une sorte de sas à l'entrée de toutes les structures de santé, où on vérifie la température avec un thermoflash, hein, et une sorte de revolver laser là, qui prend la température, et d'accord, un thermoflash et un lavage des mains. Hein. J'ai jamais autant lavé mes mains qu'en Guinée, et j'ai jamais autant senti l'eau de Javel d'ailleurs. Donc, pour les soignants, il y a un réel problème là aussi, parce qu'ils sont en première ligne, et c'est les premiers touchés, en particulier au début de l'épidémie, mais même maintenant encore, parce que les précautions ne sont pas toujours respectées. Il y a du matériel de protection qui est arrivé, mais on en est encore, c'est pas encore parfait. Et comme le dit cette banderole, ben, on n'est pas très protégé et on aimerait bien être aidé. Alors, c'est toujours pareil, hein, on est en Afrique de l'Ouest, il y a une capacité d'adaptation de la société qui est toujours assez, enfin qui moi me fascine toujours, qui est assez extraordinaire. Alors là, j'ai pris cette photo, c'est parce que vous ne voyez peut-être pas, mais tous les seaux, là, toutes les poubelles ont des petits robinets. En fait, c'est un vendeur de poubelles plastiques, là, de seaux plastiques, et ça a été reconverti en quelque chose qu'on trouve devant tous les immeubles, devant tous les lieux publics, c'est-à-dire des poubelles comme ça remplies d'eau de Javel avec le petit robinet et qui permet de se laver les mains. Quoi. Donc, bon, l'ensemble du système s'adapte à ce niveau-là. D'autre part, dans toutes les régions, il y a eu des réunions de coordination tous les matins, depuis plus d'un an, dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, pardon, où Ebola a été touché. Et moi, j'étais à plusieurs réunions de la direction préfectorale de Masinka. Donc il y a 30 personnes à 7h du matin, pendant une heure, qui discutent sur la situation. Alors en novembre, c'était très tendu, en février, ils commencent à être contents. Aujourd'hui, ils sont recyclés dans la surveillance des, comment ils appellent ça, les maladies à potentiel épidémique, hein, comme on a toujours du mal à séparer quand on a créé une institution. Et donc ils sont en train de discutailler sur les cadres rougeoles, est-ce que c'est vraiment les cadres rougeoles, etc. Puisqu'il n'y a plus d'Ebola en Guinée forestière. Dans le reste de la région, dans le reste du pays, ce n'est pas vrai. Hein. Les réunions du matin restent des vraies réunions sur Ebola. Quoi. Enfin, il y a eu un soutien qui a été en retard, hein. Enfin qui est réel. Hein. Là, il y a quelques semaines, on a reçu 20 ambulances chinoises d'un coup à la coordination nationale contre Ebola. Il y a des 4x4 tout neufs dans toutes les directions provinciales de la direction préfectorale de la santé de toutes les provinces, de toutes les préfectures touchées. Enfin, il y a du matériel qui arrive, ça, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il sera bien utilisé? Ça, c'est un autre débat, mais le soutien existe. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a Ebola en Guinée qu'il faut oublier les autres choses. Et en particulier, je vous mets cette affiche là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps à Conakry, qui est une campagne contre l'excision. Et qui montre aussi que, bon, la société guinéenne, elle ne s'est pas focalisée que sur Ebola, loin de là, en plus, hein, elle a eu des hauts et des bas, mais elle continue à avoir ses propres rythmes et ses propres campagnes de prévention sur d'autres choses, et cette affiche en est un exemple. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Julie Terman qui va nous livrer quelques éléments pour une anthropologie de la guérison.